Suivez Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Banque pour votre compte bancaire.
Priorité Santé, pour nous les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité Santé, question de femmes.
Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous dans Priorité Santé. Comme tous les vendredis, c'est question de femmes. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre l'endométriose. Et on répond à toutes vos questions sur cette maladie gynécologique qui reste encore trop méconnue, taboue ou invisible. Et pourtant, selon l'OMS, 180 millions de femmes dans le monde, soit une femme sur 10, souffrent de douleurs chroniques, aiguës, au niveau pelvien, pendant les règles ou lors de rapports sexuels. Alors à partir de quand faut-il consulter? Quels sont les traitements pour soulager les douleurs? L'endométriose peut-elle entraîner des problèmes de fertilité chez la femme? On répond à toutes vos questions. Enfin, c'est surtout notre invité qui va s'y atteler. Bonjour, docteur Abdoulaye Diop.
Bonjour, Laurence.
Merci d'être avec nous. Vous êtes gynécologue obstétricien à la Clinic Bellevue à Dakar, au Sénégal, en duplex des studios RFI en Mandincan et Foulfouldé, dont on remercie bien sûr les équipes techniques et notamment Malan Sonko. Maladie encore méconnue. C'est le cas aussi chez vos patientes? Vous le constatez, docteur?
Oui, malheureusement, oui. L'endométriose est encore très mal connue chez nous. Surtout qu'ici, le handicap qu'on a, c'est que culturellement, beaucoup de gens pensent qu'avoir des règles douloureuses, c'est normal. Et donc, ça fait un peu le lit de tout ce qu'on ne connaît pas ou tout ce qu'on ne dit pas sur l'endométriose.
Ouais, on sait aussi qu'il y a quand même pas mal de tabous, comme partout, autour des règles. Et ça, vous allez le marteler tout au long de cette émission. Ce n'est pas normal de souffrir durant ces règles.
Exactement. Et règles douloureuses, ce n'est pas normal. Pas du tout.
Voilà. Dernière petite question avant de commencer. Chez vous aussi au Sénégal, on est dans la même proportion au niveau mondial. Une femme sur 10?
Certainement, peut-être même plus. Malheureusement pour nous, les statistiques concernant l'endométriose ne sont pas très bien renseignées. Mais en consultation quotidienne, on se rend compte que les symptômes liés à des douleurs lors des rapports, les douleurs lors des règles ou des rapports sexuels sont vraiment le premier symptôme de consultation chez la première plainte chez les femmes. Donc peut-être même qu'il y a plus que ce qu'on dit et c'est certainement sous-diagnostiqué.
Voilà, bon, on va parler des douleurs forcément et des symptômes. Et on attend bien sûr vos témoignages à vous qui nous écoutez sur WhatsApp au 33 7 71 18 46. 6-41, c'est parti.
Notre santé, si on en parlait.
Si on en parlait avec docteur Abdoulaye Diop, pour commencer, forcément, qu'est-ce qui explique, comment on peut définir cette maladie inflammatoire et chronique chez les femmes en âge de procréer, parfois dès la puberté d'ailleurs, hein?
Oui, il existe à l'intérieur du corps de la femme une zone appelée la muqueuse utérine. C'est une sorte de gazon qui se situe dans l'utérus et qui gonfle chaque mois et en préparation d'une éventuelle grossesse. À la fin du mois, si du cycle menstruel, si la femme n'est pas enceinte, cette muqueuse sera éliminée et ça va sortir. C'est le phénomène des règles. Dans l'endométriose, on retrouve cette muqueuse non seulement à l'intérieur de l'utérus, mais on va la retrouver ailleurs. On va la retrouver un peu dans la trompe, on va la retrouver un peu dans l'ovaire, dans les intestins, parfois dans la vessie, parfois même dans des zones encore plus éloignées, tels que l'abdomen, tels que le thorax, les poumons. Il a même été décrit des endométrioses au niveau cutané, tels que sous le nombril, sur l'angle ou dans le cerveau. C'est dire un peu que c'est une dissémination un peu partout de cette muqueuse qui est responsable des règles et que donc quand la patiente saigne, qu'elle voit ses règles à l'extérieur, en même temps à l'intérieur de son corps, elle saigne dans les ovaires, dans les trompes, dans la vessie, dans les intestins, ainsi de suite. Et c'est ça qui donne les douleurs de l'endométriose.
Oui, c'est pour ça que le diagnostic repose sur l'imagerie, hein, pour justement localiser les lésions, hein.
Principalement, ouais. Oui. Une bonne échographie, voire une IRM, une imaginée par résonance magnétique, permet de déterminer, de localiser l'endométriose. Cependant, il faut savoir que de temps en temps, on peut avoir une IRM normale, une échographie normale, alors qu'il y a quand même de l'endométriose. Il faudrait que celui qui fait l'IRM ou l'échographie soit formé à la détection de cette endométriose pour pouvoir poser le diagnostic. Et donc souvent, on a des faux négatifs, on fait une écho, une IRM, on dit qu'il n'y a pas d'endométriose, mais la patiente présente toute la symptomatologie liée à cette endométriose.
Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des facteurs hormonaux ou des facteurs génétiques qui peuvent favoriser l'apparition de l'endométriose?
Oui, les deux. L'endométriose est d'abord hormonale parce que elle est totalement dépendante du cycle menstruel. Il est impossible d'avoir l'endométriose avant la puberté. Et en général, après la ménopause, les signes de l'endométriose s'amendent, disparaissent même. Donc, c'est un phénomène hormonal lié intimement au cycle menstruel. Génétiquement parlant aussi, on a des générations de mères en filles qui ont des douleurs lors des règles, d'où cette fameuse rumeur que les règles douloureuses, c'est normal et disparaîtront lors de la première grossesse ou lors du premier accouchement, ce qui, dans la plupart des cas, est faux.
Ouais, c'est ça. C'est bien de rappeler. Alors, les symptômes, hein, on en parle hein, forcément de ces douleurs, mais pas seulement, hein, fatigue chronique aussi, gonflement de l'abdomen aussi.
Oui, les trois principaux symptômes de l'endométriose, c'est d'abord la douleur. C'est une douleur vraiment qui, au début, va survenir au moment des règles. Ensuite, lors des rapports sexuels, à la défécation, quand on va à la selle, quand on urine, pour finir par devenir une douleur quasi permanente. Mmh. Et cette douleur va plonger la patiente dans un état de déprime, de dépression, de fatigue, à la limite. C'est pour ça que certains médecins même pensaient que certaines patientes qui se plaignaient d'endométriose étaient dépressives ou bien même qu'elles inventaient ces douleurs. Mmh. Ce qui, malheureusement, est totalement faux. C'est juste que c'est la douleur quand on a mal. Tout le temps, au réveil, pendant la journée, en marchant, en s'alimentant, en allant à la selle, à la rapport sexuel, on finit par déprimer à cause de cette douleur-là.
Ben forcément, oui.
On ne dort pas, on ne sait pas comment faire. Les médicaments pour la douleur ont le cortège d'effets secondaires, de vertiges, de nausées, etc. Et donc, on finit finalement en dépression. Donc, le maître symptôme, c'est la douleur ainsi que son cortège d'effets secondaires ou d'effets collatéraux. Mmh. Et d'autres symptômes seront aussi retrouvés, principalement les saignements, qu'on nous appelle des métrorragies, que sont des saignements spontanés pendant les règles, en dehors des règles, des saignements lors des rapports sexuels, et ces saignements peuvent être assez invalidants pour la patiente. Et enfin, le troisième symptôme, qui parfois est le diagnostic, le signe d'entrée pour poser le diagnostic de l'endométriose, c'est dans l'exploration d'une infertilité. Une patiente qui est mariée depuis plusieurs années, qui n'allait pas tomber enceinte, et en faisant soit une échographie, une IRM ou parfois une cœlioscopie, on tombe sur des lésions d'endométriose qui peuvent expliquer cette infertilité.
Oui, et puis vous le verrez, on a pas mal de témoignages à ce propos de nos auditrices. Alors forcément, face à tous ces symptômes, j'imagine que chaque traitement est personnalisé. Hein. Quelle prise en charge vous proposez à vos patientes?
Oui, la prise en charge de l'endométriose dépend déjà des symptômes de la patiente. La première prise en charge qui sera proposée, ce sera la prise en charge de la douleur, par des médicaments antidouleurs très puissants, avec différents paliers. Palier 1, palier 2, palier 3, on n'hésite pas à aller jusqu'à utiliser de la morphine ou bien des dérivés de morphine pour soulager la patiente, tant la douleur est intense. Donc, selon l'intensité décrite par la patiente, on lui proposera. Les anti-inflammatoires aussi vont aider, parce que c'est une maladie inflammatoire, avec une inflammation de tout le pelvis ou l'abdomen ou la zone concernée par cette endométriose qui gonfle, d'où ce gonflement un peu de l'abdomen qui est décrit par les patientes. Parfois, très souvent et de plus en plus souvent, nous proposons d'interrompre le cycle menstruel, de bloquer les règles. Il n'y a aucun danger à bloquer les règles. Bon, ça pose quelques petits problèmes de méfiance quand on propose à une jeune fille, surtout pour ses parents, de bloquer les règles pendant 2-3 mois. Mais il faudrait savoir que bloquer les règles ne pose aucun problème, ça ne pose aucun danger. Il y a des médicaments maîtrisés qui aident à bloquer les règles, tout un tas de médicaments, et on proposera avec la patiente quel est celui qui est le plus adapté, soit une pilule contraceptive à prendre en continu ou bien d'autres injections que l'on prendra et qui aideront à bloquer les règles. Certains médicaments pourront même aller jusqu'à mettre la patiente en ménopause artificielle, entre guillemets, en bloquant carrément le cycle menstruel. Et évidemment, ces médicaments vont avoir d'autres effets secondaires avec cette ménopause artificielle. Des bouffées de chaleur, une irritabilité, sécheresse vaginale, ainsi de suite. Et ce sont des médicaments qui sont relativement mal supportés par les patientes. Et enfin, les récents progrès de la médecine, notamment en qualité de procréation médicalement assistée, permettent à des patientes qui, avant, avaient vraiment du mal à tomber enceinte du fait de l'endométriose, de pouvoir avoir les mêmes chances que toute femme pour pouvoir enfanter.
Ouais. Docteur, comme d'habitude, je vous propose de retrouver et d'écouter la palabre au féminin de notre reporter Charlie Dupiau. Aujourd'hui, elles sont deux autour du micro de Charlie. Inde, 35 ans, Aïcha, 32 ans. Elles ne se connaissaient pas jusqu'alors, mais toutes les deux sont concernées par l'endométriose. Elles échangent par messages vocaux sur WhatsApp et c'est Inde qui démarre la discussion.
Salut. Alors, je te raconte du coup, moi, comment j'ai découvert que j'étais concernée par l'endométriose. C'est en parlant à une copine de mes douleurs, de mes règles super douloureuses, etc. Elle m'a envoyé voir sa gynéco qui lui avait parlé de l'endométriose. Et donc, je suis allée voir cette gynéco en fin 2018. Et c'est la première fois qu'on m'a parlé de cette maladie. Et donc, elle m'a examinée. Elle m'a posé beaucoup de questions sur ma famille, sur mes douleurs, sur comment je vivais mes règles depuis le tout début, etc. Et elle a fini par me parler de ça, mais sans me faire d'imagerie, en fait. Donc, elle m'a parlé de l'existence de cette maladie. Elle m'a dit... C'est ce qu'on appelle un diagnostic différentiel, donc par élimination, je pense que vous avez ça. Il s'avère que j'ai une sœur aînée qui avait un gros kyste d'endométriose, et à ce moment-là, on le savait, et qui s'était fait opérer pour l'enlever, donc elle m'a dit c'est souvent dans la même famille, etc. Voilà, donc on m'a parlé de ça, et puis c'est resté un peu en suspens, il y a eu le Covid, machin. Et les douleurs sont revenues vraiment très fort à partir de 2022. Et donc là, j'ai commencé à avoir tout un tas de gynécos diverses et variées, jusqu'à obtenir une imagerie par échographie où on voyait des lésions d'endométriose. Et en fait, ça m'a d'abord soulagée, parce que je comprenais pourquoi j'avais si mal, alors que d'autres autour de moi n'avaient pas très mal. Et ça, c'est... je suis encore en train de démêler tout ça, mais ça fait vraiment du bien à comprendre.
Ok. Bah écoute, moi, en fait, ce qui s'est passé, comment j'ai découvert que j'avais l'endométriose, c'est... Enfin, on l'a vu très tôt. Parce qu'en fait, j'étais à l'école et je me souviens, je crois que c'était au collège. Je commençais à avoir mes règles, etc. Au bout d'un an ou deux, j'avais des douleurs atroces. Fallait qu'on vienne me chercher à l'école. Les pompiers venaient me chercher à l'école. Et bah, à chaque fois, c'était du haut de l'heure des règles. Et un jour, j'ai vu un médecin dans un CHU qui m'a dit bah, « Vous avez un kyste ovarien ». Donc moi, je ne savais pas trop ce que c'était un kyste ovarien. Bon, je suis avec ma mère, parce qu'à ce moment-là, j'étais mineure. Et on lui a dit que mon kyste ovarien voilà, était assez gros, etc. Donc, il fallait l'enlever. Donc, à partir de là, moi, je ne savais pas du tout que j'avais l'endométriose, en fait. Donc, j'ai fait une opération en 2012 pour enlever le kyste ovarien. Et en fait, c'est au moment où ils m'ont opéré, c'est là qu'ils ont vu... que j'avais un kyste ovarien et aussi des lésions d'endométriose au niveau des... en tout cas, c'était les ligaments voilà, qui tiennent l'utérus. Sauf qu'à ce moment-là, ils ont dit qu'ils n'y ont pas touché vu que c'était mal placé. Donc, ils ont juste enlevé le kyste et bah, laissé les lésions d'endométriose. C'est ce qui fait que quand j'avais mes règles, j'avais extrêmement, extrêmement mal au ventre.
Merci de partager ça, je suis vraiment désolée parce que super jeune, ça doit être encore plus compliqué à vivre, mais c'est entre guillemets une bonne chose qu'ils aient pu le voir assez tôt. Et du coup, je voulais savoir si tes douleurs se sont calmées après l'opération, même s'ils n'ont pas pu brûler toutes les lésions, et puis comment tu les gères là depuis 2012 ?
Bah, en fait, si tu veux, quand ils nous ont expliqué ça, moi et ma mère, on a pleuré. On a pleuré parce que quand tu nous expliquais ce que c'était que cette maladie, que voilà, on pouvait pas forcément, enfin, en tout cas c'était difficile d'avoir un enfant, ben, on nous l'a dit, j'avais à peine 18 ans, donc j'avais à peine connu la vie. Et donc ça a été très dur, très très dur. On m'a proposé la pilule dans un premier temps, que j'ai pris sur 3-4 ans. Ça m'avait calmé un peu les douleurs. Sauf que après au bout de 3-4 ans, bah, la pilule, ça suffisait plus. Donc je recommençais à avoir des grosses douleurs, etc. Ils m'ont prescrit une piqûre qui te mettait en fait en état de ménopause. Je t'explique ça, j'ai un peu mal parce que c'est quelque chose de, bah, de très très dur à vivre. Donc en état de ménopause pendant 6 mois. Donc chaque mois, je faisais ma piqûre. Et après, du coup, bah, on, avec ma mère, on a, enfin, moi, personnellement, j'ai décidé de... Enfin, j'avais rencontré quelqu'un et je me suis dit, bah, j'aimerais bien avoir un enfant. Même. Et écoute, après les 6 mois de piqûre, j'ai essayé. Et je ne vais pas te mentir, je ne sais pas par quel miracle. En 3 mois, je suis tombée enceinte. Voilà, ça a été... c'est le souffle de ma vie. C'est, voilà, aujourd'hui, je ne sais pas comment je vivrai sans mon enfant. Parce que ça a été un espoir. Et bah, je suis émue hein, quand je t'en parle, hein, mais c'est dur.
Je suis trop contente d'apprendre que tu as eu un enfant et que ça n'a pas été trop galère. Donc vraiment, félicitations. Et moi aussi, ça m'a beaucoup émue d'entendre ça. Et c'est vrai que c'est une maladie qu'on connaît encore très mal. On commence tout juste à en parler, on commence tout juste à créer des filières pour être soignée. Et bah, c'est moi-même, en sachant que j'avais ça, je n'ai pas vraiment su pendant plusieurs années comment faire pour aller mieux, et c'est qu'aujourd'hui que je commence à y voir un peu plus clair, quoi.
La palabre féminin de Charlie Dupiau à réécouter bien sûr sur notre appli Pure Radio. Docteur Abdoulaye Diop, comment vous écoutez le témoignage émouvant de Aïcha qui a vécu notamment sa grossesse comme un miracle malgré l'endométriose, parce que j'imagine que le risque d'infertilité, ça inquiète aussi beaucoup de vos patientes, hein.
Oui, c'est très émouvant de qu'elles aient pu tomber enceinte quasi spontanément sans prendre grand traitement. L'un des gros problèmes justement des patients ayant cette endométriose, c'est cette infertilité, surtout en Afrique où c'est parfois très difficile d'avoir accès à des traitements de PMA. Heureusement, avoir de l'endométriose ne signifie pas obligatoirement qu'on aura une infertilité. Parfois, comme pour elle, la découverte de l'endométriose peut se faire en péri-opératoire, pendant une intervention chirurgicale, pendant une césarienne par exemple. Il nous arrive de voir, pendant la césarienne, de constater que la personne elle a des lésions d'endométriose. Bon, on la prévient de quand même faire attention et de bien surveiller ces lésions-là. Et c'est lorsque ces lésions commencent à s'étendre, notamment vers les ovaires ou vers les trompes, que ça peut entraîner secondairement une infertilité qui n'existait pas. Mmh. Mais heureusement, l'endométriose ne signifie pas obligatoirement infertilité.
Oui, c'est ça. Faut le rappeler aussi. On a un appel de chez vous à Dakar. C'est Mamie qui nous appelle. Bonjour Mamie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors vous avez 40 ans, vous nous avez confié que vous souffrez avant, pendant et après vos règles depuis toute jeune, hein, depuis l'âge de vos 12 ans. Vous avez pris pas mal de médicaments, hein, dont des anti-inflammatoires, et les douleurs ne sont pas passées, c'est ça ?
Exactement, exactement. J'ai commencé par la pilule, j'ai pris tout ce qui est codéine, caféine, des anti-inflammatoires. Malgré ça, j'ai toujours autant de douleurs. Donc finalement, la dernière option qu'on m'a proposée, c'est de prendre de l'opium. Et même ça, ça ne règle pas totalement le problème. Ça peut me soulager ou me rendre assez, on va dire, à peu près, j'ai l'impression d'être shootée quand je les prends. Mais ça ne règle pas, en fait, mes douleurs. Ça ne calme pas du tout.
Ouais. Ouais. Vous avez été diagnostiquée assez tardivement, en fait, hein, par IRM, hein, c'est ça, en 2021 en France ?
Exactement, oui. Seulement en 2021, oui, tout à fait. Seulement en 2021. Du coup, mon diagnostic a été très très long parce que je souffre de ça depuis mes premières règles, visiblement. Parce que j'ai toujours eu des douleurs de règles. La voie orale n'a jamais marché avec moi. C'était toujours des intraveineuses et autres parce que tout ce qui se passe fond, on t'a dit, ça marchait pas du tout. Et donc du coup, j'étais obligée d'être internée, on va dire 24 heures, le temps qu'on me mette sous intraveineuse tout le temps, toutes les 4 heures, pour être sûre que je n'ai plus de douleurs. Tellement elles étaient intenses.
Oui, c'est ça. Alors, si les anti-inflammatoires ne fonctionnent pas, si la pilule ne fonctionne pas, quelle question vous voulez peut-être poser à notre docteur, d'ailleurs, qui est aussi du côté de Dakar, Abdoulaye Diop ?
Moi, ce que j'aimerais poser comme question au docteur Abdoulaye Diop, c'est comment mieux vivre avec l'endométriose. Parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour et j'aimerais vraiment savoir comment est-ce que je peux faire pour mieux vivre avec.
Docteur ?
Désolé déjà pour vos douleurs et cette errance thérapeutique ou diagnostique que vous avez subie depuis des années. C'est vrai que l'endométriose, culturellement chez nous, on pense qu'avoir des règles douloureuses, c'est normal. Vous avez dû entendre ça des milliers de fois. Et c'est bien des années après qu'on s'y intéresse ou on arrive à poser un diagnostic. Donc là, malheureusement pour vous, vos lésions ont certainement dû bien grandir à l'intérieur de votre petit bassin, du pelvis. Et donc, c'est pour ça que les médicaments antidouleurs classiques n'ont pas trop marché chez vous. Il fallait passer à des paliers vraiment 3, comme la morphine que vous évoquez, pour vous soulager. Mais il y a beaucoup d'autres nouvelles molécules qui sont apparues récemment. Il y a encore des molécules qui permettent de bloquer un peu la diffusion de cette endométriose dans le corps et même de faire régression certaines lésions. Il ne faudrait pas vous décourager. Il faudrait continuer à consulter, voir peut-être d'autres médecins spécialistes d'endométriose. Ils vont donc faire une topographie très exacte de vos lésions d'endométriose. Peut-être qu'on pourrait vous proposer de passer par la case chirurgie pour éliminer certaines lésions. Le principe de la chirurgie de l'endométriose, c'est de faire une chirurgie la plus exhaustive possible et d'enlever le maximum des lésions pour éviter qu'elles récidivent. Et à partir de là, ça devrait pouvoir améliorer sensiblement votre qualité de vie. Donc, ne vous découragez pas. Il y a quand même des choses à faire. Il y a des choses pour vous aider, vous vous soulager par rapport à vos douleurs principalement.
Donc, consultez Mamie, peut-être d'autres spécialistes, hein.
Oui, ne pas hésiter à consulter des médecins spécialistes de la douleur, tels que des anesthésistes, réanimateurs, qui ont cette faculté, enfin, cette capacité de vous proposer beaucoup de médicaments pour gérer la douleur. Une psychothérapie peut aider aussi, ça peut aider un peu à gérer la douleur, et même parfois la médecine, des médecines parallèles.
On a répondu à toutes vos questions, Mamie, ou vous voulez peut-être une dernière question pour le docteur ?
Non, c'est parfait. J'ai juste une dernière question.
Oui.
Pour tout ce qui est anesthésiste et autres que je pourrais voir, est-ce qu'il y en a au Sénégal ou il vaudrait mieux aller à l'étranger ?
Oui, on en a. On a au Sénégal des anesthésistes qui sont spécialisés en douleur. Ce sont surtout des anesthésistes qui interviennent dans des pathologies où il y a beaucoup de douleur, telles que les anesthésistes qui gèrent les soins palliatifs, les anesthésistes qui gèrent certaines chirurgies qui sont très, très, très douloureuses. Mais il y en a. On a vraiment des anesthésistes qui sont sur-spécialisés en douleur.
Et notamment à Dakar, alors.
À Dakar, oui, à Dakar.
Ok. Bah, écoutez, voilà, mamie, en tout cas, gardez le courage. Hein. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. On va écouter votre choix à vous, votre choix musical. C'est la Capverdienne Soraya Ramos avec Natera sur RFI. Encore merci, mamie.
Mas a minha terra tá flada, um creio céu. Fica comigo, anda ali para o conchi. Aquele sabor gostoso da nossa cachupa.
Soraya Ramos avec Natera sur RFI dans Priorité Santé. C'est question de femmes comme tous les vendredis. Et aujourd'hui, on répond à toutes vos questions sur l'endométriose, car non, ce n'est pas normal de souffrir durant ces règles. Alors, quand faut-il se faire diagnostiquer pour trouver un traitement qui apaise les douleurs? On en cause avec notre invité, le docteur Abdoulaye Diop, gynécologue obstétricien à la clinique Bellevue à Dakar, au Sénégal. Et là, maintenant, on écoute la note vocale que nous a laissée une auditrice sur notre WhatsApp.
Bonjour Priorité Santé, j'espère que toute l'équipe se porte bien. Merci pour cette occasion. Je suis Kimia, j'ai 34 ans et je fais ce message depuis Brazzaville. J'ai été diagnostiquée de l'endométriose à l'âge de 10 ans parce que j'ai connu mes règles très tôt. Et aujourd'hui j'ai 34 ans, mais depuis lors, j'ai pris tout traitement clinique. Fille de médecin, vous pouvez imaginer combien de traitements j'ai dû ingurgiter sans solution, jusqu'à ce qu'il y a 2 ans déjà, qu'une amie m'a conseillé de prendre du clou de girofle. un ingrédient cuisine que je vais mettre au moins 10 dans une bouteille d'un litre d'eau potable. Je vais attendre que ça infuse et puis que je prenne un verre le matin, un verre le soir et pendant un mois comme ça. Et je répète la même chose encore. Et j'ai des règles sans stress, sans douleur enfin depuis 2 ans et ce n'est que du bonheur. Je n'ai jamais vécu cela. Je voulais partager ce témoignage. Si ça marche pour moi, peut-être que ça marcherait pour quelqu'un d'autre. Et moi, je crois aujourd'hui que la solution est dans notre assiette. À très bientôt. Merci beaucoup.
Merci surtout à vous, Kimia de Brazzaville. Alors, docteur Abdoulaye Diop, les clous de girofle pour apaiser les douleurs, la solution est dans notre assiette, nous dit notre auditrice. Vous validez ou c'est pas si simple que ça?
Il paraîtrait que ça marche.
Ah,
une de mes
ouais.
stagiaires qui m'en a parlé, qui m'a dit que les clous de girofle, ça marchait, que ça avait des vertus inflammatoires.
Mm-hmm.
La phytothérapie, elle marche. Oui, il y a certainement des médicaments issus des plantes qui peuvent marcher pour gérer la douleur ou autres symptômes. J'avoue que moi, personnellement, je m'y connais pas.
Mm-hmm.
Mais si ça a pu marcher pour elle, ben, tant mieux. Je dis bravo. Et peut-être que d'autres vont essayer, ça va marcher. Et peut-être la recherche va se diriger, va s'intéresser à ces clous de girofle qui auraient des vertus anti-inflammatoires. Et si ça peut aider à soulager les patients, moi je dis bravo.
C'est ça. Bah, au-delà des médicaments, l'acupuncture, le yoga, l'hypnose, l'activité physique, c'est bon ça aussi?
Oui, ce sont des médecines parallèles, je propose. Il faut reconnaître que la médecine moderne ne répond pas à tous les besoins
et
des
oui.
patients, que ce soit dans le domaine de l'endométriose ou même dans d'autres domaines, ça nous le savons.
Mm-hmm.
La médecine est une science incomplète et qui a ses limites. Donc si on arrive, en passant par l'acupuncture, par la médecine chinoise ou autre, là, à soulager ses douleurs ou même à trouver des réponses par rapport à d'autres problématiques que l'on peut avoir sur le plan sanitaire, oui, il ne faut pas hésiter à explorer ça.
Ouais. On a un appel sur notre WhatsApp au 337 61 18 46 41. Et cette fois-ci, on prend la direction de la Guinée.
Question de femmes, pour nous les femmes.
Mais aussi un peu pour nous les hommes.
Tu n'as pas parlé à quelqu'un qui pouvait te...
Priorité santé sur RFI.
Et c'est Khadija oui. qui nous appelle de Conakry. Bonjour Khadija.
Bonjour Priorité santé.
Merci d'être avec nous. Alors vous avez 40 ans et un gynécologue vous a diagnostiqué une endométriose thoracique, hein, c'est ça, en 2017.
Oui.
Quel genre de douleur vous ressentiez, notamment durant vos règles, hein, depuis que vous êtes très très jeune?
Ce sont des douleurs pelviennes, avec des difficultés pour aller aux toilettes, des vomissements. C'était ça au début.
Oui.
En fait. C'est depuis 2017 que ça s'est aggravé.
Avec
j'ai commencé à ressentir des douleurs thoraciques, avec des essoufflements. Après le diagnostic, on a trouvé que c'était l'endométriose thoracique. Après, j'ai été drainée et talquée. Et puis, j'ai pris la plume. Depuis 2017, je suis sur la plume.
Ouais, c'est ça. Et vos spécialistes, ils ont prescrit une pilule, hein, c'est ça, non?
Oui, une pilule en continu.
Et ça va pas mieux?
Ah, ça va pas. Vraiment, ça ne va pas.
Ça ne va pas. Vous ressentez toujours les mêmes douleurs, hein, c'est
toujours
ça?
Toujours les douleurs. C'est vrai que ça a tenu, mais les douleurs sont toujours là. Les douleurs lombaires, les douleurs pelviennes,
mm-hmm.
ça a diminué, mais c'est là, quoi. C'est constant. Avec, je prends le tramadol matin, soir, mais avec tout ça, rien.
Ouais.
Pour le moment.
Ouais, bon alors, j'imagine que vous avez une question pour le docteur, hein, pour tenter d'y voir un peu plus clair et de vous soulager, hein, Khadija.
Oui, effectivement. Bon, je voulais faire l'hystérectomie, mais on m'a dit qu'avec la forme thoraxique, c'est pas évident d'en guérir. Donc, je voulais savoir si c'est vrai ou faux.
Alors, docteur?
Oui, l'hystérectomie ne va pas régler le problème.
Non.
L'hystérectomie, c'est le fait d'enlever l'utérus. Enlever l'utérus ne va pas empêcher aux lésions qui sont déjà là de grandir, de continuer à faire mal. Donc, une solution possible pour aider à diminuer ou arrêter les douleurs, ce serait à la limite une ovariectomie bilatérale. Ovariectomie, c'est d'enlever les ovaires. Parce que comme on l'a dit au début de l'émission, l'endométriose est une maladie hormonale. Donc, ce sont les hormones sécrétées par les ovaires qui sont responsables de la diffusion de cette endométriose. Donc, si chirurgie a, ce serait soit une chirurgie pour enlever toutes les lésions d'endométriose qui sont à l'intérieur du petit bassin, au niveau lombaire, au niveau des intestins, au niveau de la vessie, etc. Ou bien, si vraiment on cherche à être radical, enlever carrément les ovaires et donc on sera en ménopause artificielle définitive provoquée, et là, les lésions devraient beaucoup diminuer. Cependant, avant de vous lancer dans cette chirurgie de l'endométriose, n'hésitez pas à consulter encore d'autres médecins. Depuis récemment, il y a beaucoup de nouvelles molécules qui sont sorties et qui, associées à la pilule qui bloque les règles, aident à beaucoup soulager les patientes. Donc, il faut vraiment que le traitement chirurgical radical soit le dernier recours.
Vous avez compris, Khadija?
Oui.
Ouais. En même temps, on peut se dire aussi qu'avant effectivement une telle chirurgie, docteur, faut peut-être rappeler que l'endométriose, ça diminue et ça disparaît généralement après la ménopause aussi.
Oui, après la ménopause, ça disparaît pas à 100%. Certaines lésions peuvent continuer à grandir d'elles-mêmes parce que c'est vrai que ce sont les ovaires qui sont responsables de 99% des sécrétions des hormones responsables de l'endométriose.
Oui.
Mais il existe d'autres sources de sécrétion d'œstrogènes à l'intérieur du corps. Donc, il va y avoir certaines lésions mal placées ou certaines lésions qui englobent des fils nerveux qui vont continuer à décharger, continuer à donner des douleurs. Mais le gros des lésions va disparaître et le gros des douleurs vont s'atténuer après la ménopause.
Bon, ben voilà, faut peut-être aussi parfois patienter, même si c'est quand même pas forcément non plus évident. Hein. Mais en tout cas, consulter d'autres spécialistes, c'est ce qu'on a bien compris. Voilà le message pour vous, Khadija. Merci beaucoup pour votre témoignage et belle journée du côté de Conakry. On revient en Sénégal avec un nouveau témoignage. C'est Sally qui nous appelle. Bonjour Sally.
Bonjour.
Bonjour, c'est une voix dynamique. Alors vous avez 38 ans et c'est en 2021 que vous avez été opérée pour des fibromes au niveau de l'utérus, c'est ça?
Oui.
Et c'est ensuite qu'une URM vous a confirmé que vous aviez une endométriose bilatérale des ovaires. Voilà. Vous ressentez quel type de douleur, Sally?
Avant l'intervention, j'avais très mal pendant les règles et pendant la période d'ovulation. Mais depuis l'intervention, les douleurs se sont atténuées.
Donc là, ça va mieux?
Oui, là, ça va beaucoup mieux.
Vous avez subi deux chirurgies, c'est ça?
Deux chirurgies, oui.
Mais ça, je crois savoir, Sally, ce qui vous inquiète, c'est que vous n'arrivez pas à tomber enceinte depuis quelques années. Vous avez démarché de nombreux spécialistes. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos gynécologues?
Avec l'endométriose et les interventions, ils ont dit que les ovaires sont vraiment attaqués et qu'il y a l'adénomyose aussi qui empêche la nidation au cas où on veut faire une fécondation in vitro.
L'adénomyose.
Il y a un faible taux d'AMH, 0,5.
0,5. Oui, le taux d'AMH, c'est un marqueur de la réserve ovarienne. Docteur, j'ai besoin de vos lumières.
Oui, l'AMH, l'antimillaire hormone, c'est une hormone qui reflète un peu le taux de la réserve ovarienne mesurable, c'est-à-dire, de manière assez basique, la quantité d'œufs qui reste à l'intérieur ou la quantité d'ovules à l'intérieur des ovaires pour pouvoir tomber enceinte.
Et l'adénomyose, ça a un impact sur la fertilité, ça?
L'adénomyose est une autre pathologie, une forme d'endométriose. On a dit tout à l'heure que l'endométriose, c'était la localisation à l'extérieur de l'utérus de cette muqueuse. L'adénomyose, c'est lorsque cette muqueuse se retrouve à l'intérieur du muscle utérin et donc dans l'utérus. Donc c'est une forme d'endométriose aussi, qui n'est pas aussi compliquée qu'une endométriose classique, mais qui aussi, du fait de l'inflammation, peut entraîner des difficultés, notamment à retenir une grossesse.
Oui, c'est ça. Sally, avant d'écouter la question que vous voulez poser à notre médecin, vous nous avez dit qu'un spécialiste aussi, vous avez dit que vous ne pouvez pas faire de FIV, c'est ça, de fécondation in vitro?
C'est ça, parce qu'à cause de l'adénomyose, l'utérus devient dur. Donc, pas adapté pour la nidation.
Alors, une question alors pour notre docteur Sally, je comprends que là vous vous sentiez un petit peu dans l'impasse.
Est-ce qu'il y a des possibilités de corriger ça?
Comme j'ai dit tantôt, la procréation médicalement assistée a fait de grands bonds ces dernières années. Donc, il y a des possibilités de faire des traitements pour réduire cette adénomyose et donc mieux préparer au bout de 2, 3, 4 mois l'utérus à pouvoir supporter une grossesse, conserver la grossesse principalement. Donc, il y a des traitements. La fécondation in vitro, les techniques de procréation médicalement assistée ont aussi évolué. Même une diminution de l'AMH n'est pas obligatoirement incompatible avec une PMA. Il y a des techniques, peut-être pas disponibles au Sénégal, mais ça existe. Le don d'ovocytes existe, par exemple, qui est une technique pour contourner un peu une diminution de l'AMH. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'AMH reflète quelles sont les chances de succès d'une PMA. Plus votre AMH est basse, plus ça signifie que les chances que la précarisation médicale mal assistée marche. Et donc, certains spécialistes ne veulent pas trop se lancer à faire des techniques de PMA lorsque la MRH est basse, au risque d'avoir des échecs. Cependant, je pense vraiment personnellement qu'il faudrait, même pour les patients ayant une AMH basse, quand même leur donner leur chance de faire la PMA. Et elles peuvent avoir des succès. On a vu des patients ayant des AMH basses et qui arrivent à tomber enceinte. D'autant plus que la réserve ovarienne, il y en a deux. Il y a la réserve ovarienne mesurable, que l'on mesure par l'AMH, et donc qui est basse, ok. Mais il y a la réserve ovarienne non mesurable, qui, en l'occurrence, puisqu'elle est non mesurable, on ne peut pas savoir. Et on a vu des patients ayant une réserve ovarienne non mesurable, excellente, à telle enseigne qu'elle tombe même enceinte spontanément, alors qu'on leur avait prédit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Donc, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et je pense qu'il faudrait explorer, frapper à d'autres portes, et certainement qu'il y aura des solutions pour elle.
Voilà, bah encore une fois, consulter d'autres spécialistes, hein, finalement, hein, pour croiser les diagnostics. Hein, Sally, c'est ce que vous pouvez peut-être faire.
Merci beaucoup.
Bon, bah voilà, en tout cas, merci et bon courage à vous. On a une question sur WhatsApp. Docteur, c'est Dieuveille de Brazzaville au Congo qui nous écrit « Un gynécologue m'a diagnostiqué une endométriose, mais il n'a pas précisé de quel type je suis atteinte. J'ai fait deux fausses couches. Est-ce que n'importe quel type d'endométriose peut causer une fausse couche ?» Et autre question qu'elle nous pose, « Présente-t-elle des risques pour l'accouchement ?» Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre à Dieuveille?
Non, bien, toutes les endométrioses ne donnent pas de fausses couches. C'est sûr, peut-être les endométrioses, c'est, par exemple, une adénomyose qui est une forme d'endométriose peut effectivement être à l'origine du fausse couche. Mm-hmm. C'est, les endométrioses ont plus tendance à empêcher de tomber enceinte. Si on a une endométriose au niveau de la trompe, est-ce qu'on a une endométriose au niveau de l'ovaire, les endométrioses pelviennes, elles vont vous créer des difficultés pour tomber enceinte. Si on a une endométriose pulmonaire, ça n'a rien à voir avec la fertilité.
Oui.
Si on a une endométriose au niveau des intestins, vous aurez plus des difficultés à la digestion. Souvent, beaucoup de colopathies, donc de pathologies, des patientes taxées colopathes, comme colopathie fonctionnelle, c'est en général de l'endométriose derrière tout ça. Donc non, toutes les endométrioses ne donnent pas d'infertilité.
Voilà, bah c'est bien dit. Allez, on écoute un dernier témoignage. Cette fois-ci, on est du côté de Kinshasa, en RDC.
RFI à Kinshasa.
Et c'est Benny qui nous appelle. Bonjour Benny.
Bonjour.
Alors vous avez 33 ans et à l'âge de 18 ans, on vous a diagnostiqué l'endométriose. Vous nous avez confié que vous avez toujours eu des règles très douloureuses et abondantes. Et avec quels symptômes alors?
Au fait, des douleurs pelviennes, vraiment des douleurs chroniques. Hein. Quand on dit douleur, ça veut dire que ça ne te permet pas d'aller à l'école, ça ne te permet pas de quitter ton lit. Ça ne te permet vraiment pas de marcher et tu es cloué là.
Ouais.
Vraiment des douleurs, des fortes douleurs, des règles.
Oui, parce que ça, il faut le rappeler, hein, notamment chez les plus jeunes aussi, ça peut être source d'absentéisme scolaire aussi, ce qui fait qu'au quotidien, vous, bah, vous n'alliez pas forcément à l'école ou au lycée, enfin plutôt au lycée, tous les jours. Comment vous faisiez en fait, hein?
Je me rappelle, pendant que j'étais étudiante, j'ai manqué un examen d'une grande pondération. Ça a failli me coûter toute une année. Et heureusement que j'avais mon directeur était compréhensif et vraiment qu'il y avait l'équipe médicale, ils ont compris. Donc c'était à cause de mon endométriose. J'avais mes menstrues, j'avais hyper mal. Je ne pouvais pas aller passer cet examen-là. Et c'était vraiment compliqué. Et ça arrivait comme ça. Et même dans la vie professionnelle, c'est un problème.
Hein. Mais oui.
Il s'agit de... Oui, de l'intimité, et puis il y a la maladie, c'est pas toutes les chefs qui te comprennent.
Mais bien sûr.
Donc c'est compliqué vraiment, j'aurais été endométriose, mais bon. Et puis après, on fait avec.
On s'accroche. Alors avant d'écouter la suite de votre témoignage, parce que ça se termine plutôt bien pour vous et c'est bien d'avoir un témoignage positif, je veux quand même faire réagir Dr Abdoulaye Diop. Aussi bien quand on est jeune, hein, le décrochage scolaire, mais aussi l'absentéisme professionnel à cause des douleurs, hein, pas facile d'en parler, surtout, comme vous le disiez, dans une culture patriarcale qui existe un petit peu partout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que déjà on en parle au corps enseignant, si on peut... quand on est plus jeune, est-ce qu'on en parle à un médecin du travail?
Oui, il faudrait sensibiliser déjà, les parents de cette douleur invalidante que l'on a pendant les règles, que le parent lui-même puisse sensibiliser l'enseignant, à l'école. Si à des niveaux un peu plus élevés, soi-même on peut prévenir son corps professoral de cette maladie chronique que l'on a, l'endométriose, et donc certainement s'attendre à de l'absentéisme durant ces périodes-là. S'il y a un médecin dans l'école ou dans l'université aussi, le mettre au courant, avoir des traitements, avoir une fiche médicale qui permet aux professeurs et au corps enseignant d'être plus sensible à ça. Il existe des systèmes de rattrapage, entre guillemets, si jamais on a loupé un examen du fait d'une journée où on a eu l'endométriose, des règles très douloureuses, mais il faudrait que le corps enseignant soit mis au courant. Malheureusement, il y a encore beaucoup de tabous concernant l'endométriose, on n'en parle pas. Déjà, parler des règles, déjà, c'est tabou. Parler des règles douloureuses, c'est un second tabou sur un tabou préexistant. Mais il faudrait vraiment en parler, sensibiliser les gens et qu'on ait une disposition particulière pour les femmes souffrant d'endométriose, aussi bien dans la maison qu'en milieu professionnel ou en milieu d'éducation.
Encore du travail. Hein. Et en même temps, Béni, j'aime beaucoup cette expression, vous dites que vous êtes une endo-warrior.
Oui.
C'est-à-dire,
je me bats contre la douleur. Les règles sont normales, mais pas la douleur. C'est vraiment ça le slogan, en fait. En fait, je me bats contre la douleur. Les règles sont normales, mais pas la douleur.
Oui.
Oui, on se bat contre la douleur. Je suis une endo-warrior, je me bats contre la maladie, en fait. Je me bats contre les incriminations de ma société, de ma culture.
Un combat. Et en même temps, un combat qui a été aussi un remporté, parce que pendant longtemps, votre combat, c'était aussi de pouvoir tomber enceinte. Hein. Et ça a été long. Vous a placé sous ménopause artificielle, hein, c'est ça ?
Mm-hmm. Oui, oui.
Vous êtes fait opérer ?
Oui.
Et aujourd'hui ?
Et on a stimulé les ovaires et puis aujourd'hui j'ai conçu. Gloire à Dieu.
J'ai quoi ?
Aujourd'hui j'ai conçu, j'ai un bébé.
Et ben voilà, j'ai conçu, on n'entendait pas très bien, j'ai un bébé. Donc voilà, l'Endo Warrior a remporté son combat, c'est quand même... Je vais faire réagir notre docteur Abdoulaye Diop.
Oui, c'est une bonne nouvelle, c'est une belle victoire. Les endo-warriors sont les femmes qui se battent contre l'endométriose au quotidien. Et le fait d'avoir pu avoir un enfant, c'est une belle victoire et c'est encourageant. Ça montre aussi à toutes les milliers de femmes qui souffrent d'endométriose que tout espoir n'est pas perdu et qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire et aboutir à quelque chose, avoir son enfant tant désiré.
Et pour terminer, Bénice, il y avait un message justement à faire passer aux auditrices qui vous écoutent et qui se disent, il y a un moment donné, j'en peux plus. Qu'est-ce que vous leur dites ?
En tout cas, il faut s'accrocher. C'est vrai que le traitement est long, le parcours est très long, mais avec de la volonté, avec de l'énergie, du courage surtout.
Oui.
Et ça peut aller, oui. Et puis, il y a un temps où la nature fait vraiment les choses naturellement. Hein. Dans mon cas, je ne pouvais pas concevoir naturellement, mais et puis après, et ça y est. J'ai un bébé, donc ça peut arriver à n'importe quelle femme qui nous suit en ce moment.
Voilà, vive l'Endo Warrior que vous êtes. En tout cas, c'est très chouette de terminer sur un témoignage comme le vôtre, Béni. Et belle journée du côté de Kinshasa en RDC. Docteur, on arrive doucement à la fin de cette émission, mais on parlait de libérer la parole, les tabous. On parlait aussi dans le couple aussi, parce que il peut y avoir aussi beaucoup de femmes qui ont peur de souffrir ou qui souffrent aussi durant les rapports sexuels. Hein.
Oui, les dysménorrhées, les douleurs lors de la procession sont très fréquentes et il y en a qui vont arriver à un stade où elles n'auront même plus envie d'avoir des rapports sexuels avec leur conjoint, ce qui évidemment va causer des problèmes conjugaux, des problèmes dans le couple. Il faudrait aussi que les maris, les conjoints soient sensibilisés à cette douleur. C'est vrai que vivre avec une femme qui a de l'endométriose et qui a des douleurs tout le temps, qui n'a pratiquement pas de libido, qui n'a pas envie d'avoir des rapports, qui n'a pas de plaisir lors des rapports, qui limite fuit les rapports, qui saigne tout le temps, ça peut être compliqué. Mais si on tient compte que cette femme, c'est qui subit ça, un accompagnement physique, moral, psychologique, aiderait parfois le couple pourrait aller en consultation ensemble et le professionnel de la santé, le médecin, le gynécologue pour expliquer mieux au mari pourquoi cette souffrance, pourquoi cette douleur. Encore qu'il faudrait déjà que nous, en tant que personnel médical, qu'on arrête de penser que les femmes souffrant de règles douloureuses font un peu du cinéma, si j'ose dire, ou bien que c'est dans la tête. On a malheureusement des confrères qui pensent ça encore. Ouais. Elles ne font pas de cinéma, c'est pas dans la tête, ce sont des douleurs qui sont réelles, ce sont des douleurs qui sont invalidantes. Même si on ne peut pas comprendre que la douleur ne cède pas malgré des médicaments très puissants, ça arrive, c'est des douleurs qui sont rebelles, chroniques, et donc il faudrait les accompagner au mieux, en discuter, que ce ne soit plus un sujet tabou, que la recherche continue, de nouvelles molécules apparaissent chaque année par rapport à l'endométriose. On a encore des victoires, on a encore des endo-warriors qui remportent des victoires. Et tous ensemble, on devrait pouvoir aider à prendre en charge et à accompagner toutes ces femmes au quotidien qui souffrent de l'endométriose.
Voilà. Et puis, maître mot pour terminer, ne pas minimaliser les douleurs. En tout cas, merci beaucoup pour vos mots très précieux. Je pense que ça va, à mon avis, rassurer beaucoup de nos auditrices. Merci beaucoup, docteur Abdoulaye Diop. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à la clinique Bellevue à Dakar, au Sénégal, en duplex des studios RFI en Mandincan et full day. Et merci encore Malan Sonko. Merci beaucoup, docteur.
Merci, Laurence. C'est un plaisir.
Pareil. À très bientôt. Allez, on se quitte avec la chanteuse martiniquaise Lauriane Zachary avec Yélélélélé.
Je t'ai la tenue, bel soleil. Ça qui fait entre nous, c'est magique. Sous les autres cas, c'est même ciel. Au mélodie pour mon romantique. Et puis des yeux, tiens, mais moi. Bagaille là, c'est grand en loi physique. Les lambes ont caressé en moi. Et sous son jet musique là, nous chanter. Yélélélélélé. Bon Dieu doit te mettre en main. Tout ça mettez nous plus haut. L'aile à l'île en cas monté. Nous toujours qu'on débat ta vie. Mais pas si spontan nous qu'a dit. En nous chanter. Yélélélélélé.
Lauriane Zachary, Yélélélé, un titre à retrouver sur la playlist de RFI. Priorité santé, c'est terminé. Merci à toute l'équipe, Victor Hull, Ophélie Lassen, Louise Kaledek, Talim Pouo et Thibaut Mata. En vous souhaitant bien sûr un excellent week-end à l'écoute de RFI. Lundi, vous retrouverez comme d'habitude Caroline Paré pour parler du fonctionnement du cœur. En voilà un beau sujet à suivre dans quelques instants, le journal sur RFI.
C'était Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Banque pour votre compte.